De toutes les grandes étapes de l'œuvre de Christ, c'est-à-dire Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte et bientôt un jour son retour. Cette étape-là, on n'a pas encore un jour férié, mais quand elle arrive, on n'aurait même plus besoin. Mais dans toutes les grandes étapes du plan de Dieu, le plan du salut, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte et son retour, effectivement, cette étape Pentecôte, c'est l'étape qui nous est le plus curieuse, le plus bizarre, on a le plus de mal à interpréter ce que nous venons de lire, ce qui se passait, ce bruit, ce vent, ces langues, tout ça. En fait, ce qui s'est passé à Pentecôte, on pourrait dire que c'est très, très parlant pour nous aujourd'hui. C'est la beauté de l'œuvre de Dieu. Pensez en fait à notre monde actuel. De plus en plus, on entend dire que le grand défi du 21e siècle, c'est d'arriver à s'entendre, d'arriver à s'unir, d'arriver à communiquer dans notre monde aujourd'hui. On constate que le monde est de plus en plus petit. Beaucoup de nationalités, d'ethnies sont mélangées partout. La mondialisation est de plus en plus une réalité, mais on a parfois du mal à la réussir, à la vivre. Dernièrement, la chorale que vous venez de voir, la chorale a eu l'occasion de chanter dans le milieu où travaille notre frère, un cadre très international. Alors, au cours de la soirée, c'était intéressant, il y avait un Allemand qui a parlé en anglais avec son accent, suivi par un Anglais d'Angleterre qui a parlé en anglais, bien sûr, avec son accent. Après, il y a eu un Français qui a parlé, qui a fait un discours, mais bon, c'était en anglais aussi, pour que tout le monde puisse comprendre, et avec son accent. Et il y avait même un Américain qui a essayé de parler anglais, avec son accent, celui qui vous parle. Et j'ai écouté un peu ce qu'il disait, et souvent le discours revenait dans ce monde de commerce, on va dire, le discours revenait à dire, voilà, notre but, notre désir, c'est de réussir à travailler ensemble, c'est à utiliser les atouts de chaque pays, chaque culture, qu'on puisse apprendre à regarder dans la même direction, au lieu d'être tous en concurrence. Mais j'ose dire qu'en face d'eux, dans notre humble chorale, Kumbaya, eh bien, c'est exactement ce qu'ils avaient. C'est exactement ce qu'ils avaient, un groupe qui a réussi à travailler ensemble, qui a utilisé les atouts de chaque culture, chaque pays. Ça se voyait et sur les visages de notre chorale et sur les chants qu'on avait choisis. Un groupe qui regardait ensemble dans la même direction, qui s'entendait, qui s'aimait. Vous voyez, Dieu, ça fait depuis 2000 ans qu'il réussit ce que le monde rêve de faire. Ça fait depuis 2000 ans que Dieu réussit un tel projet et c'est grâce à Pentecôte, c'est l'histoire de Pentecôte. L'Église de Jésus-Christ, le meilleur projet international qui soit, Dieu le réussit depuis 2000 ans maintenant et nous le vivons encore ce matin. Donc nous voilà, découvrir un peu ce que Dieu a fait, cette étape importante dans son plan de salut, d'appliquer l'œuvre de Jésus-Christ au monde et à l'Église. Ce jour-là, ici à Pentecôte, la foule a posé trois questions. La première question qu'elle a posée, c'est « Qu'est-ce qui se passe ?» Et la deuxième question, c'était « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et la troisième question que nous allons emprunter d'un texte un peu plus tard que nous n'avons pas lu, mais « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc ça, c'était la réaction de la foule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est un peu les questions que nous allons nous poser ce matin concernant cet événement à Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tout d'abord, on voit leur réaction dans les premiers versets. Toute la foule vient en courant. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont entendu un bruit. Vous savez, je sais, à la maison, parfois j'entends des bruits. Certains bruits me font plus rien. D'autres bruits, je cours pour savoir ce qui se passe. Eh bien, ce bruit-là, c'était un des bruits qui fait courir, un bruit exceptionnel. Et tout le monde est venu en courant. Dans ce qui s'est passé, il y a eu trois phénomènes qui ont attiré l'attention de Luc et du monde. Les trois phénomènes, c'était ce bruit, comme un vent impétueux. C'était les flammes, les langues de flammes qui se sont posées sur chacun d'eux. Et puis, troisième phénomène, c'était les gens qui commençaient à parler dans d'autres langues. Alors on s'est dit, nous, mais c'est quoi tout ça? Ce bruit, ces langues de flammes, et puis cette expression. Alors les deux premiers, le bruit et les flammes, sont assez faciles à déchiffrer, je pense, si on connaît l'Ancien Testament. Le troisième l'est un peu moins, et pourtant c'est celui qui est le plus parlant, on va dire. Tout d'abord, le bruit du vent. Le vent avec ce bruit fort, bon, ça pourrait assez facilement pour nous évoquer justement l'esprit, la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait dit en début des Actes, vous recevrez une puissance, il parlait de l'esprit, et dans la Bible, le vent, le souffle, l'esprit, c'est souvent associé en hébreu, vent, souffle, esprit, c'est tous le même mot. Et Jésus, quand lui il prévoyait la venue du Saint-Esprit, il a soufflé sur ses disciples, recevait le Saint-Esprit. Donc ici on a ce vent puissant pour montrer que là, ça y est, le Saint-Esprit vient avec puissance. Bien sûr, ça va être nécessaire pour que si cette Église va jamais survivre, réussir, grandir, un corps sans souffle est mort, tout comme l'Église de Jésus-Christ, sans la présence de Dieu, sans Dieu lui-même, sans son esprit, est mort. Le souffle, la vie viennent en puissance qui pourrait facilement être imagée, illustrée par ce vent fort. Après, Luc dit qu'il y a eu des choses semblables à des langues de feu. Des petites flammes, encore une fois, Luc fait son mieux pour décrire le phénomène. Et même pour le vent, il a dit que c'était comme un bruit de vent. Ici, pour les flammes, il dit que c'est semblable comme des langues de feu. Donc, les flammes, la flamme, ça aussi, c'est une image qui revient dans l'Ancien Testament. Souvent, notamment, la présence de Dieu était imagée par des flammes. Abraham l'a vu un jour, Dieu, quand ils ont fait alliance ensemble, c'était des flammes qui se sont passées près de lui. Moïse l'a vu un peu dans le buisson ardent, ce feu, ces flammes. Il y avait la colonne de feu avec le peuple dans le désert qui y est conduisait, c'était indiqué la présence de Dieu. Donc voilà, les flammes de feu encore vont nous aider à rappeler peut-être la présence de Dieu, notamment sa sainte présence, le feu, la sainte présence qui purifie, comme fait le feu. Donc si le vent parle surtout de l'esprit, si les flammes parlent surtout de sa présence sainte, ça fait quoi? Ça fait le Saint-Esprit, et on reconnaît ce qui se passe ici, que c'est le Saint-Esprit qui descend. Et ça correspond justement à ce que Jésus avait dit. Il dit dans peu de jours, il avait dit en Actes chapitre 1 verset 5, dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les événements de ce jour-là montrent bien que ça y est, c'était le moment où la promesse s'accomplissait. D'ailleurs, c'était un baptême. Bon, aujourd'hui, nous avons vu un baptême. On a vu que tout le corps était immergé, entouré par l'eau. Tout le corps était entouré par l'eau. Ici, toute l'Église va être entourée, immergée, cette fois-ci en quoi? Ben, pas dans l'eau, mais en Dieu, dans son esprit. On a vu que le baptistère était rempli. Ici, chacun sera rempli, pas d'eau, mais du Saint-Esprit. Et encore, le parallèle peut être poursuivi. Le baptême est un événement marquant en début de vie chrétienne. Pour illustrer cette nouveauté de vie, ce nouveau départ, eh ben, ce Pentecôte, qui était ce baptême, était aussi un événement marqué au début de l'Église pour montrer une nouveauté, un nouveau départ. La venue du Saint-Esprit va inaugurer une nouveauté de vie dans le peuple de Dieu, une nouvelle ère, une nouvelle époque, une nouvelle manière d'être le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, bien sûr, était présent, mais son action était plutôt ponctuelle, occasionnelle, individuelle. Et ici, c'est évident que le Saint-Esprit va agir dans une manière nouvelle dans le monde. Donc on voit déjà dans le bruit, dans les flammes, cette présence forte de Dieu par son esprit. Mais c'est le troisième phénomène qui va nous aider à comprendre plus ce qui s'est passé ce jour-là à Pentecôte, parce que ils se mettent à parler dans d'autres langues. Et c'est ça qui est peut-être l'aspect bizarre pour nous de cette grande partie, cette grande étape dans le plan du salut de Dieu. Voilà, ils se mettent à parler dans d'autres langues. Il y avait ce jour-là, dit le texte, des gens venus de partout dans le monde. Certaines étaient venues peut-être en pèlerinage, d'autres habitaient, séjournaient à Jérusalem, peut-être de manière plus durable. En tout cas, ils sont là. Et ils entendent parler leur langue maternelle. C'est très fort. En plus, il dit, il souligne en verset 7, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Des galiléens, plutôt des gens, des paysans, des gens sans instruction. Je crois que vous saurez tous reconnaître la différence entre un accent paysan et un autre accent. Et il y a quelque chose. Et, bon, aujourd'hui, dans les grandes villes, on ne s'étonnerait pas d'entendre d'autres langues que le français. Mais si vous allez vraiment en France profonde, en village, ce serait vraiment plus étonnant. Et les Galiléens, c'est un peu ça. Ils sont galiléens, mais le miracle est d'autant plus fort que ça vient des Galiléens. Donc voilà ce qui s'est passé. On a un peu déchiffré ce qui s'est passé, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'était leur grande question. Verset 12. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? C'est là où les explications abondent. Mais voyons de suivre la pensée de Pierre, parce que Pierre va l'expliquer dans la suite. Que veut dire ceci? Et Pierre dit, il se lève, il dit, je vais vous l'expliquer. Ceci, eh ben, c'est ce qui a été déjà annoncé, prophétisé dans l'Ancien Testament, notamment par le prophète Joël. Et ici, de Joël, ce passage, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. » Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Alors, on lit ce passage, on s'étonne un peu qu'il cite ce passage-là, parce que de ce que nous avons vu le jour de Pentecôte, il n'est pas question, notamment, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil qui se change en ténèbres, la lune en sang. Là, le jour de la Pentecôte, ça ne s'est pas arrivé. Alors, on dit, mais pourquoi il cite ça? Mais certainement, Pierre sait lire et comprendre l'Ancien Testament mieux que nous, parce qu'il comprend les derniers jours. Quand il parle des derniers jours, en fait, il comprenait les derniers jours comme étant toute l'époque entre la résurrection de Jésus-Christ et jusqu'à son retour. Et pour eux, c'était voilà, déjà tout un âge messianique entre sa résurrection et son retour. Certaines choses dans cet âge messianique se sont réalisées, se réalisent là. D'autres, on les attend encore. Mais eux, ils n'ont aucun problème à parler des derniers jours. Nous sommes en quelque sorte dans les derniers jours. Et ce qui intéresse surtout Pierre dans cette prophétie de Joël, ce qui retient surtout, c'est cette annonce, cette promesse qu'un jour, Dieu il va accorder sa présence, il va accorder son esprit à toute chair. C'est la phrase clé. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il voit l'accomplissement ici, dans ce qui s'est passé. Toute chair, tout le monde, et je crois qu'il faut retenir deux sens dans ce toute chair, tout le monde. Premièrement, toutes sortes de personnes, et deuxièmement, toutes sortes d'ethnies, c'est-à-dire tout le monde, tous les gens, et puis tout le monde, toute la terre. Donc tout d'abord, toutes sortes de personnes. Et ce qui explique ces versets, vos filles, vos fils et vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, les serviteurs et les servantes. C'est-à-dire, là, il voit que maintenant, tout le monde, tout le peuple va pouvoir avoir un accès à Dieu, entendre la voix de Dieu, avoir une relation avec Dieu, être proche de Dieu, bénéficier de son esprit, de sa présence. Dans l'Ancien Testament, quand l'esprit venait sur quelqu'un, justement, il prophétisait, par exemple, c'est arrivé au roi Saül et bien d'autres. Il y avait parfois des visions, parfois des songes, mais c'était le fruit, la manifestation dans l'Ancien Testament de ce que l'esprit se reposait sur une personne. Mais tout au long de l'Ancien Testament, on voit que cette effusion de l'esprit, cette descente de l'esprit, était limitée surtout au roi, au prophète, au responsable du pays. Mais maintenant, Pierre voit que ce n'est pas limité jusqu'au roi, aux responsables, même pas limité aux apôtres, c'est tout le monde. Ils étaient dans cette chambre réunie, ce lieu réuni. Ils étaient 120, le verset même dans le chapitre 1 dit qu'il y avait des femmes, il y avait d'autres. Et là, tout le monde bénéficie de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Et ça, c'est une grande nouveauté, et c'est une grande différence entre l'Église chrétienne et toutes les religions du monde. Toutes les religions divisent le peuple entre le clergé et puis les autres, les laïcs. Et les clergés, il a un accès auprès de Dieu, les autres doivent passer par eux. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes, qu'eux ils savent prier, eux ils savent écouter la voix de Dieu, eux ils savent accéder à Dieu, et nous, les autres, on dépend d'eux. Ça, c'est toutes les religions au monde, sauf la foi chrétienne, depuis c'était la promesse de Dieu. Un jour, tout le monde, jeunes, vieillards, fils et filles, serviteurs, servantes, tout le monde. Et même, c'est-à-dire même dans le judaïsme, même dans la loi de Moïse, il y avait cette barrière. Il y avait les lévites, les sacrificateurs, eux, ils pouvaient s'approcher plus de Dieu que les autres. Mais maintenant, avec la venue de Dieu de cette manière, depuis Pentecôte, tous nous avons accès à Dieu. Ça ne veut pas dire que dans l'Église, il n'y aura plus de responsables, mais selon ce qu'on apprend ici, les responsables, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, tout ça, eh bien, ils ne sont pas plus proches de Dieu que n'importe quel autre chrétien. C'est-à-dire tout le monde peut être habité par Dieu, tout le monde peut manifester le fruit de sa présence, le fruit de l'Esprit aujourd'hui, étant l'amour, la joie, la paix, la patience, toutes ces choses. Dans ce sens, l'Esprit sur toute chair, c'est tout le peuple, c'est toute la famille de Dieu. Maintenant, aussi tout le monde, c'est le sens toute chair, toute la terre. Et c'est pour Luc, c'est vraiment l'accent qu'il va mettre sur cet événement à Pentecôte. Ça va être l'ouverture à toutes les nations de la bonne nouvelle. Pierre, il dit, voilà, l'Esprit va être répandu sur toute chair, mais même Pierre, à ce moment-là, il n'envisage pas à quel point c'est vrai, à quel point ce sera toute chair. Luc, qui nous écrit ces choses, lui, il le sait, parce que lui, il a accompagné l'apôtre Paul, il commençait à voir, oui, l'Esprit va être vraiment répandu sur toute chair. Pierre, ce jour-là, il va devoir encore faire quelques progrès pour comprendre à quel point c'est toute chair. Mais ici, Luc, on voit dans son récit, il insiste vraiment sur la présence de toutes les nations sur le ciel. Il fait cette liste, en verset 8, c'est une liste impressionnante. Je disais dans un commentaire que cette liste est une des meilleures listes que nous avons de l'époque, de toute la littérature qui nous vient de cette époque. C'est une des meilleures listes que nous avons du monde habité de l'époque. Les ethnies, les peuples, les pays, tout ça. C'est une des meilleures listes que nous avons des nations. Bien, il dit, il parle de toutes les nations sous le ciel. En verset 5, bien sûr, il n'a pas en tête les États-Unis qui n'existaient pas à l'époque, mais quand il dit toutes les nations sous le ciel, c'est toutes les nations, tout le monde habité de l'époque, qui représente le monde entier. Et c'est ça le sens si fort de Pentecôte. Jusqu'à présent, adorer Dieu devait se faire à Jérusalem, devait se faire en hébreu. Mais maintenant, on loue Dieu dans d'autres langues. On loue Dieu dans d'autres langues. C'est ça qui est merveilleux. Il y a cet évangéliste, ce conférencier, Fernand Legrand, qui a été connu en France et qui est décédé récemment. Mais il a un message assez connu qui s'appelle « Que s'est-il passé en Actes chapitre 2 ?» Et il fait remarquer quelque chose que souvent saute l'attention des gens. Il dit « Les apôtres, quand ils parlent en langue, est-ce que les apôtres ont eu la capacité de parler en langue pour pouvoir partager l'évangile avec les peuples réunis ?» Il dit non, c'est pas ce qui s'est passé. Quand Pierre voulait présenter l'évangile, il a basculé en hébreu, chose que tout le monde comprenait. Il a prêché un message ainsi que nous allons étudier une prochaine fois, une langue que tout le monde comprenait. Ce qu'il faisait, Dieu donnait l'esprit, donner à chacun d'exprimer les merveilles de Dieu. Quelque part, il louait Dieu et il racontait les merveilles de Dieu. Et le message très parlant pour les Juifs réunis, et les Juifs, et les disciples, et ceux qui vont se convertir, le message très parlant, la grande nouveauté depuis Pentecôte, c'est de reconnaître que Dieu, ce Dieu, il peut recevoir, il peut agréer, il peut prendre plaisir dans une louange crétoise, dans une louange arabe, dans un louange romaine, et bien quelques instants plus tard, beaucoup vont se convertir et ils vont repartir chez eux avec cette nouvelle idée, ce nouveau message, et ils vont commencer à parler à leur entourage, leurs voisins, leur famille en disant voilà, en fait, c'est pour vous aussi. Dieu, c'est pour vous aussi. Jésus-Christ, c'est pour vous aussi. Vous n'avez pas besoin de venir à Jérusalem. Vous n'avez pas besoin d'apprendre l'hébreu ou le latin ou l'anglais pour connaître Dieu. Vous pouvez le faire dans votre langue. C'est ce que nous avons vécu ensemble à Pentecôte. Et ça, ça, c'est fort. L'Église de Jésus est très particulière dans ce sens-là. Vous savez, quand on faut monter une association, il faut décrire, il faut donner la circonscription et le siège social. Quelle est la circonscription et le siège social du christianisme? Eh bien, la circonscription, c'est le monde entier, et le siège social, eh bien, il n'y en a pas. On ne pouvait pas dire c'est à Jérusalem, parce que Dieu a fait en sorte que voilà, le fief n'est pas resté à Jérusalem, il est parti un peu dans le monde entier. Et ça, c'est une grande différence par rapport à d'autres religions du monde. Contrairement à l'islam, contrairement au bouddhisme, même le catholicisme, voilà, l'évangile n'a pas de siège social, n'a pas un attache culturel. Grâce à Pentecôte, c'est ça le message de Pentecôte. Et c'est la force et la beauté de la chose. Il fut un temps, c'est incroyable d'y penser aujourd'hui, mais il fut un temps que le fief du christianisme, c'était l'Afrique du Nord, c'était la Tunisie. Et c'est là où on réunissait les conciles, c'est là où on défendait la divinité de Christ, c'est là où on rencontre Augustin et d'autres. Le fief était là, Afrique du Nord. Aujourd'hui, on a du mal à le croire, mais le fief du christianisme, c'était l'Afrique du Nord. Il fut un temps, c'est peut-être difficile à croire aujourd'hui, il fut un temps que le centre, le cœur, là où émanait, rayonnait le message, c'était l'Europe, au cœur de l'Europe, à Genève, avec ce Français, Jean Calvin. Et peut-être bientôt, on va pouvoir dire, il fut un temps où il y a eu beaucoup de chrétiens en Amérique du Nord, mais il fut un temps, maintenant, c'est peut-être l'Asie, c'est ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment la force et la beauté depuis Pentecôte, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, de toute chair, la vérité, l'évangile est détaché d'une culture, d'un lieu, d'un centre, d'un bâtiment, pour rayonner dans le monde entier. Et c'est le miracle de Pentecôte. Tous les commentaires, quand il devant ce chapitre, il constate c'est clairement un renversement de la tour de Babel. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Les hommes se sont réunis pour se rebeller contre Dieu, pour s'affirmer contre Dieu. Ici, ils étaient réunis pour dépendre de Dieu. Et quand les hommes à Babel se sont réunis contre Dieu, eh bien, il y a eu un jugement. Et le jugement, c'était de confondre les langues, de faire en sorte que les gens parlent toutes sortes de langues différentes pour diviser, pour séparer, c'était un jugement. C'est encore aujourd'hui, c'est ce qui rend le commerce, la politique, la paix difficile. Aujourd'hui, tout le monde est obligé d'apprendre l'anglais pour se débrouiller un peu. Et même les ethnies, le racisme, les guerres, tout ça, vient un peu de là. Donc, Babel était un jugement contre les hommes réunis contre Dieu. Pentecôte, c'est tout le contraire. C'est une bénédiction pour le peuple réuni pour Dieu. Babel, c'est l'homme qui essaie de monter au ciel sans Dieu. Pentecôte, c'est Dieu qui descend vers l'homme pour le porter, pour l'aider. Le résultat de Babel, c'était la division, le racisme, la guerre. Le résultat de Pentecôte, c'est l'unité des chrétiens, c'est la paix, c'est cette mission d'amour envers le monde entier. C'est ça qui est merveilleux ici. C'est ça que veut dire Pentecôte. On voit l'accent que met Luc déjà l'évangile pour tous. Alors que faut-il faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et que faut-il faire? Que faut-il faire pour faire partie de ce projet international si réussi de Dieu? Pierre le dit, il s'inspire encore d'une phrase en Joël, verset 21. Mais avant de parler de ce verset 21, remarquez tout d'abord ce que Pierre ne dit pas qu'il faut faire pour faire partie de ce plan merveilleux, pour réussir cette étape. Il ne dit pas, par exemple, « Bon, à vous maintenant d'essayer de mettre des flammes sur votre tête. » Il ne dit pas « Ok, on va essayer de se réunir, attendre qu'un bruit fort maintenant nous arrive à nous tous, sinon... » Il ne dit pas « Essayez-vous de parler en langue. » Vous voyez, il ne prêche pas Pentecôte, il prêche Pâques. Il ne prêche pas Pentecôte, il prêche Pâques. Nous allons voir dans le message suivant. Il prêche la bonne nouvelle parce qu'il voit dans ce qui s'est passé que maintenant, Le salut est offert à tous et il se retient ce verset 21. Alors, maintenant, avec l'Esprit qui fait son travail, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça. Si on a compris Pentecôte, c'est ce qu'on fait. Invoquer le nom du Seigneur qui est Christ dans ce passage et après il va prêcher Christ. Vous voyez en verset 19 et 20, et la prophétie de Joël annonce la fin du monde un jour. Ces choses ne sont pas encore arrivées. Pierre voulait surtout arriver à verset 21. Quiconque invoquera le nom sera sauvé. C'est entre le premier venu de Christ et son retour, le mot d'ordre, ce qui nous reste à faire, c'est cette fenêtre ouverte pour tous. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et il rappelle le jugement final qui va venir. Il le décrit dans ces termes. Il y aura du sang, du feu, le soleil se changera en ténèbres. Tout ça, quand l'Ancien Testament parle comme ça, c'est un langage de jugement, un jugement de Dieu. Le soleil qui se transforme en ténèbres. Quand vous lisez ce passage en Joël, il est question d'un jour grand et terrible. Ce jour de jugement, ce jour de la fin du monde. Un jour grand et terrible. Le soleil se change en ténèbres. Eh bien, vous savez, les habitants de Jérusalem, peut-être ces versets les ont quand même éveillé quelque chose, parce que 50 jours auparavant, ces habitants de Jérusalem, ils ont vu le soleil se changer en ténèbres. Ils ont vu un peu, ils ont vu du sang. C'est ça ce qui passait à la croix. Il y a le soleil qui s'est changé en ténèbres. À la croix, il y a eu ce sang versé de Jésus-Christ. À la croix, il y a eu ce jour grand et terrible, terrible pour Jésus-Christ, parce qu'il subissait le grand jugement de Dieu. Notamment, même la confusion, la séparation, ce jugement, même qu'on a vu à la tour de Babel, confusion, cette séparation, cette division, Jésus le vivait sur la croix, même avec son Père, impossibilité de communiquer avec son Père. Jésus l'a vécu pour que nous ayons, nous, un jour grand et glorieux, un jour grand et glorieux de salut, où nous sommes réconciliés avec Dieu. Jésus a connu ces ténèbres, ce soleil changé en ténèbres. Dieu détournait son regard pour que nous puissions aujourd'hui, quiconque, invoquer son nom et être sauvé. Ce qui est beau, c'est que ce jour-là, beaucoup l'ont fait, et même des hommes pieux l'ont fait, ont compris qu'ils avaient besoin de ce sauveur, de ce salut. Et on voit que la vraie manifestation de l'Esprit à Pentecôte, c'est ces 3000 âmes qui se sont converties. C'est ces 3000, après avoir été convertis, qui ont vécu une nouvelle unité qui est décrite en fin de chapitre 2 et qui ont vécu une nouvelle mission, c'est de partir au loin. Donc, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Voilà surtout son travail, c'est de nous faire invoquer le nom de Christ pour être sauvés et pour nous mettre dans une famille tous ensemble, tous diverses, une famille d'amour unie, et puis de nous envoyer envers d'autres peuples. Alors vous voulez savoir si le Saint-Esprit agit aujourd'hui, vous voulez savoir si Pentecôte a tout son sens dans notre Église aujourd'hui. Trois petites questions à se poser. Est-ce que nous invoquons le nom de Christ, l'œuvre de Christ, et non pas une supériorité culturelle, une supériorité ethnique, une supériorité intellectuelle, morale pour le salut? C'est un peu le témoignage de Joël, voilà. Parce que c'est trop facile de se reposer sur quelque chose. Les uns parce qu'ils sont plus grands, les uns parce qu'ils sont plus sportifs, les uns parce qu'ils sont plus intellectuels, les uns parce qu'ils sont plus occidentaux, je ne sais pas. Le chrétien, il invoque le nom et l'œuvre de Jésus-Christ comme son seul espoir, sa seule justice. Donc, est-ce que si le Saint-Esprit agit en nous, eh bien, nous invoquons le nom de Dieu. Et puis, si le Saint-Esprit agit en nous, sommes-nous unis? Sommes-nous unis dans l'Église locale avec tout ce que nous représentons, toutes les différentes personnes venues de partout, toutes sortes d'arrière-plan? Si le Saint-Esprit a l'œuvre, eh bien, il nous unit. C'est son travail de nous faire un seul corps. C'est ce que dit 1 Corinthiens 12. Vous avez été tous baptisés du Saint-Esprit pour former un seul corps. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Vous êtes un seul corps. C'est son travail. C'est sa spécialité, Dieu en nous. Et puis, sommes-nous désireux de voir ce message atteindre les extrémités de la terre? C'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit à Pentecôte. C'est ouvrir encore une vision plus grande de son amour et de son but et de sa vision
pour que l'évangile parte plus loin.
Si ces choses existent dans notre cœur, alors oui, le Saint-Esprit à l'œuvre, alors oui, Pentecôte a tout son sens pour nous aujourd'hui.